Bonjour chers amis internautes. Alors aujourd'hui je vous propose de méditer ensemble un passage des Écritures relativement connu qui est lu tous les deuxièmes dimanches de Pâques, c'est-à-dire le dimanche qui suit Pâques. Alors ce passage se trouve en Jean chapitre 20, mais nous n'allons pas lire tout le passage, c'est-à-dire du verset 19 à 31, mais simplement le passage du verset 24 à 31, donc chapitre 20, verset 24 à 31. La première partie de ce passage est commentée d'ailleurs, si vous allez sur l'espace où il y a les enregistrements, vous verrez donc le chapitre 19 à 30 qui est commenté par ailleurs. Alors, n'éteignez pas votre enregistrement avant d'entendre fin de l'enregistrement, parce qu'il y aura aussi des temps du silence pour prier. Alors, l'enregistrement, le commentaire que nous allons faire, n'a pas, bien sûr, la prétention de brosser toutes les interprétations et tout ce qui peut être dit sur ce texte. Bien sûr, nous allons l'orienter dans un sens bien précis, comme vous allez le voir. Mais d'abord, je vous propose de prier le Seigneur pour qu'il nous aide à vraiment aller au bout de ce texte, à en faire une nourriture spirituelle pour nous. Donc prions le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte comme il a inspiré toute la parole. Je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, « Ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. » Donc je vous propose la lecture du passage dans un premier temps. Or l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux, donc avec les disciples, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Donc comme je l'ai dit, nous allons aborder ce texte selon certains aspects seulement. Alors déjà, nous voyons, il faut savoir d'abord, pour introduire le texte dans son contexte, que le soir de Pâques, Jésus est donc apparu à ses disciples qui étaient morts de peur, et il les envoie en mission en leur soufflant l'esprit qui sera pleinement manifesté, comme vous le savez, à la Pentecôte. Et Thomas n'est pas là. Donc quand il revient, évidemment, les disciples lui disent tout enthousiastes qu'ils ont vu le Seigneur. Et Thomas ne le croit pas. Première erreur de Thomas, donc il a quitté la communion ecclésiale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être avec les disciples, il fait autre chose. Eh bien, mes frères, il ne faut pas s'attendre à avoir une foi forte, si au lieu d'aller à la messe, au lieu de lire la parole, au lieu de prier, au lieu d'être dans les choses de Dieu, nous allons faire autre chose de mondain. Le Seigneur respecte notre liberté, Il nous a fait avec des lois physiques et spirituelles, et si nous préférons, par paresse, par laisser aller, pour diverses raisons, les choses du monde aux choses de Dieu, les choses qui nous engluent dans le visible au détriment de l'invisible, il ne faut pas s'étonner que notre foi soit, comment dire, branlante et qu'elle ait besoin de béquilles, comme Thomas va le demander. Donc première chose à faire, mes frères, si vous voulez, si nous voulons, hein, nous voulons une foi plus forte, eh bien il faut faire de l'exercice spirituel, c'est-à-dire lire la parole, prier, aller à la messe, profiter des sacrements, s'en nourrir, etc. Tout ce que Dieu met à notre disposition, comme nous allons voir aussi plus tard dans ce commentaire. Signalons aussi que Thomas, ici, signifie jumeau. Donc, en fait, Thomas, ici, n'a pas le comportement vrai, il reste toujours en doublure. Tant que nous n'aurons pas notre comportement enraciné dans les choses de Dieu, nous serons comme des jumeaux, on pourrait dire comme des zombies spirituels. C'est un petit peu le sens ici, hein. Thomas jumeau, Thomas ne peut pas être pleinement lui-même tant qu'il ne goûte pas pleinement aux choses de Dieu. Alors, Thomas donc veut des choses visibles. Il est tellement englué dans le monde visible que s'il n'a pas des preuves visibles, il est incapable de voir le travail qui se déroule dans l'invisible, qui portera de toute façon des fruits visibles. Alors ça veut dire déjà qu'il va manquer de persévérance à cause de sa foi défaillante. Si nous, par exemple, nous aimons nos frères et nous prions pour eux, et que malgré nos prières et nos gestes d'amour, eh bien, dans le monde visible, ils n'ont pas de signe d'ouverture sur leurs défauts, sur leur toujours ce manque de conversion. Eh bien, ils sont tentés de nous décourager et de dire au Seigneur, je veux des signes. Si nous-mêmes nous prions et nous faisons des efforts et nous prions par rapport à tel aspect de notre vie qui a besoin d'être corrigé par le Seigneur, si ça ne vient pas tout de suite, nous allons nous impatienter et dire « Seigneur, je veux des signes visibles, je veux tout de suite ». C'est un petit peu comme celui qui ferait du sport et qui veut tout de suite des fruits. Non, les choses sont toujours dans la progression parce que Dieu agit toujours en respectant notre liberté. C'est aussi un petit peu la naïveté de penser que parce que nous croyons en Dieu, il faut que les choses du ciel soient tout de suite présentes. Non, ce monde est ce qu'il est, il est marqué par le péché, et il y aura des maladies, il y aura la mort, il y aura des injustices, nous aurons des persécutions, nous ne pouvons pas attendre dès maintenant le plein bonheur que Dieu nous promet plus tard, même si, en tant que chrétien, il y a un bonheur plus profond qui va au-delà du visible, qui nous est donné dès maintenant. Alors, 8 jours plus tard, c'est-à-dire une semaine plus tard, le dimanche, c'est toujours le dimanche que se passent ces apparitions, ce n'est pas un hasard, c'est toujours ce principe des choses de Dieu, hein. Si nous commencions le dimanche par le vivre en Dieu, dans les choses de Dieu, et plus largement si nous avions des temps de prière, des temps de méditation de la parole, des dévotions, eh bien notre foi serait autre que ce Thomas qui a décidé d'aller voir ailleurs 8 jours plus tôt, le dimanche, eh bien 8 jours plus tard Thomas est là. Et donc ici, Jésus, de nouveau, fait la même chose, il apparaît par surprise, on pourrait dire, au milieu des disciples, les portes étant verrouillées. Notons que les disciples, bien qu'ils aient été rassurés en voyant en mission, que Jésus leur ait soufflé l'esprit, une semaine plus tard, ils en sont au même point. Dans le monde visible, rien n'a bougé. La Pentecôte n'est pas encore là. Il faut donc un temps de latence, ce que Thomas a du mal à comprendre. Notons que Jésus accepte, donc, dans sa bonté, d'aller donner des béquilles spirituelles à Thomas. Alors il lui dit, ben, mets ta main, etc., etc. Alors, nous chrétiens, Jésus nous donne des béquilles, parfois des grands rassemblements, il nous donne des signes plus visibles, mais beaucoup de chrétiens pensent que les gens qui voient des apparitions, qui ont des signes visibles, sont plus matures. Parfois, c'est peut-être l'inverse. Le chrétien mature est celui qui n'a pas forcément besoin de signes constants, réguliers, pour avoir une foi forte. Le chrétien solide n'est pas celui qui va vivre de rassemblement charismatique en rassemblement charismatique, c'est une bonne chose. Mais disons, combien de fois j'ai vu des gens aller dans des groupes de prière, lever les mains, parler en langue, être enthousiaste, et puis entre deux périodes de prière dans des groupes comme ça, ils végètent, ils dépriment. Ce qu'il y a un problème. Donc même si Jésus nous donne ces signes, que sont parfois la piété aussi populaire, avec ses grands rassemblements, ses processions, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas se contenter de ça. En fait, le chrétien assuré, c'est ceux du disciple d'Emmaüs qui ont une rencontre personnelle avec la parole de Dieu, avec Jésus, qui se nourrit régulièrement du Christ, et pour qui, le dimanche, un rassemblement communautaire est une occasion de, certes, se nourrir, mais aussi de contribuer à l'Église. Et que de chrétiens, en fait, se nourrissent de ces rassemblements, certes, mais sans avoir l'esprit de service. Et donc, ils sont des consommateurs plus que des acteurs. Si le dimanche, nous vivions nos messes comme un moyen de participer, et pas de nous nourrir, et parfois pire, de venir que par habitude, eh bien, ça irait mieux. Mais pour ça, pour que nous soyons des chrétiens actifs, que nous contribuions à l'Église, que nous soyons comme une pierre vivante, comme le dit Pierre dans la première épître de son nom, eh bien, il faut avoir une foi qui, tous les jours, est nourrie. Seule, dans la chambre, dans le secret de sa chambre, comme dit Jésus dans Matthieu chapitre 6. Et donc, gardons-nous bien, comme Thomas, de ne nourrir que de ces signes visibles, que le Christ nous donne dans sa bonté, mais qu'il nous appelle à dépasser, parce qu'il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », parce que Thomas fait une déclaration que nul autre apôtre n'avait fait, « Mon Seigneur et mon Dieu », donc il va plus loin que les autres apôtres. Et notons d'ailleurs que Jésus dit pas « Je ne suis pas Dieu ». Donc pour les témoins de Jéhovah, pour les musulmans, pour tous ceux qui nient la divinité du Christ, il y a un gros problème, parce que Jésus accepte d'être reconnu comme Seigneur et Dieu. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc une relation personnelle. Et donc Thomas va jusque-là, et au lieu de le féliciter, Jésus lui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc Jésus nous appelle à dépasser ces signes. Nous pouvons être enthousiastes dans des rassemblements charismatiques, dans des groupes de prière, avoir une émotion, etc. Mais il faut dépasser ça. Il faut le vivre au quotidien. Et comment nous nourrir de cette présence quotidienne, comment avoir ses yeux sur l'invisible, comment avoir cette conviction que Dieu agit dans l'invisible au-delà des signes visibles, pendant ce temps de latence qui peut être cette vie, hein, par exemple la conversion de quelqu'un qui arrivera qu'après la mort, que nous verrons nous aussi et après la mort quand nous verrons ce quelqu'un, ou alors nous-mêmes quand nous avons des défauts et que il faudra attendre le plein bonheur de la vie éternelle et que nous verrons Jésus face à face que de l'autre côté, ou quand nous avons les intentions de prière pour les autres, pour nous-mêmes, et que nous ne voyons pas tout de suite les signes et qu'il faut attendre le temps de latence pour que les choses mûrissent et que l'exaucement arrive, eh bien tout ça, comment cultiver ce regard calme et serein, ce regard qu'avait Jésus, parce que pour traverser la croix, pour aller à la résurrection, Jésus, pour être convaincu que la résurrection arrivait au milieu de sa passion, il lui fallait ce regard sur l'invisible. Eh bien, Jésus nous donne le secret, c'est la fin. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez Jésus le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom. Ben excusez-moi, mais la solution, c'est la parole de Dieu. On y revient. Vous verrez tout de suite la différence entre quelqu'un qui se nourrit de la Bible et celui qui ne va que de rassemblement en rassemblement, qui n'écoute la parole que d'une oeil distraite, qui n'a des dévotions qu'extérieures. Celui qui se nourrit de la Bible, mais attention, ne pas lire la Bible n'importe comment, la clé est là. Il faut être convaincu que ce qui est mis dans la Bible est fait pour nourrir notre foi. C'est ce que dit ce texte. Par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Ce livre n'a été écrit, donc la Bible, hein, même si ici Jean parle plus particulièrement de son évangile, mais la Bible n'a été écrite, n'a été mis par écrit que ce qui est utile à nourrir notre foi, pas notre intellect. Donc il faut lire la Bible dans un esprit de foi, dans l'esprit, une lecture spirituelle, c'est-à-dire mot à mot, inspirée par l'esprit. Si nous avons cette lecture, eh bien nous serons nourris. Et alors, la Bible, c'est comme ces lunettes que Dieu nous donne pour fortifier notre regard sur l'invisible. Je dirais que la Bible, c'est notre séance de musculation spirituelle. C'est nos haltères, si j'ose cette comparaison. La Bible est là pour muscler notre regard spirituel. Elle nous donne un regard sur les choses qui nous comment dire, ce regard qui nous aide à voir au-delà des apparences. L'exaucement va arriver. Cette personne pour qui nous prions va se tourner vers Dieu maintenant ou dans l'autre monde. Et nos prières et nos gestes d'amour qui sont comme un prolongement de notre prière vis-à-vis de ces personnes ne sont pas inutiles. De même, nos efforts par rapport à notre prière sur tel ou tel défaut ne sont pas inutiles. Notre prière n'est pas inutile. La grâce travaille. Comme Jésus, au cœur de la passion, savait que l'Esprit allait le ressusciter. Comme le dit Paul dans son épître aux Romains, Dieu a ressuscité le Christ par son Esprit. Donc il faut le croire, il faut le croire. Et si les apôtres n'avaient pas eu la foi, regardez, ils sont apeurés, ils ne sont que 12 ou 120, on ne sait pas ici combien exactement, mais ils sont un petit groupe au soir de la résurrection, ou une semaine après. Il n'y a rien qui se passe. Une semaine décalage, ils ont toujours peur, les portes sont toujours verrouillées, mais ils ont la foi. Et ils vont transformer l'Empire romain. Ils vont créer l'Église avec l'Esprit, on va dire. Ils vont contribuer, pardon, c'est plus juste la création de l'Église. Ils vont mettre leurs petites pierres. Eh bien, voilà mes frères, je ne peux vous encourager qu'à lire la parole, à prier régulièrement, à lire la parole dans un esprit de prière. C'est par cette régularité de l'exercice spirituel. Encore, si vous pratiquez un sport, vous le savez, ce n'est que la régularité. Ou si vous apprenez une langue ou que vous voulez progresser quelque part, que ce soit en sport ou dans quelque chose d'intellectuel, vous savez très bien que c'est par l'entraînement. Eh bien, les choses spirituelles, c'est ça. Faut pas croire que, comme les gens qui vont de rassemblement en rassemblement, que le miracle arrive tout d'un coup. Ça peut. Le Seigneur est bon. Mais il y a quand même pour ces gens qui sont touchés de manière très brusque par la grâce, ce travail à faire dans la régularité du quotidien. Autrement, nous ne serions pas respectés dans notre liberté d'homme. Nous sommes ainsi faits qu'il faut assimiler les choses avec ce que Dieu nous a donné, notre intelligence, notre corps, notre âme. Eh bien, la parole de Dieu est cet instrument qui nous entraîne. Ce livre de grammaire pour apprendre une langue, ce livre d'exercice pour faire un sport. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu, c'est vraiment l'instrument privilégié pour, comment dire, entraîner notre foi. Et il faut une discipline, plutôt que de regarder des choses à la télé qui des fois ne nourrissent plus notre regard mondain qu'autre chose, plutôt que de faire telle ou telle chose, prendre du temps pour étudier la parole, pour prier, pour mieux faire après les choses, pour mieux vivre avec ce regard sur l'invisible. Voilà mes frères, c'est l'exemple même, c'est le Christ qui priait des nuits entières avant de faire ses miracles, qui, avant de choisir ses disciples, et il a fallu qu'il prie pour que, malgré la trahison de Judas, il croie que les choses avaient un but. C'est ces heures de prière au jardin de Gethsémani. Et ne croyez pas que Jésus ne lisait pas la parole. Quand vous lisez les évangiles, il connaît la Bible par cœur. Que j'aimerais bien la connaître comme lui. Donc il s'est nourri de la parole en tant qu'homme. Et si Jésus avait un tel respect pour la parole, il a dit dans Jean, je crois, chez le chapitre 5, l'écriture ne peut être abolie. S'il avait ce grand respect qu'ont tous les apôtres, qu'avaient tous les apôtres, nous ne pouvons pas nous en dispenser. Donc, la leçon, mes frères, ici, c'est qu'il faut de la régularité dans une vie de prière régulière axée sur la parole et les sacrements. Et ce que nous donne l'Église, d'abord la parole, la liturgie de la messe, les lectures de la Bible que nous donne l'Église, et puis les sacrements, nous nourrir à l'Église, nous en nourrir, mais vraiment réellement, écoutons avec sérieux les lectures, préparons-les, écoutons le sermon, participons, et pas simplement par devoir, ou n'allons pas simplement superficiellement faire des dévotions, et ne compter que sur une foi, disons, axée sur les sens, ou sur les sensations. Et la foi, c'est autre chose. Voyez, regardez un petit peu ce que... Donc cet exemple de Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi, c'est autre chose. C'est une discipline, c'est un travail de longue haleine, qui qui se cultive donc dans la prière est l'abandon. Demandons à Dieu, dans ces moments de prière, de nous donner ce regard, cet abandon. C'est ça, hein, l'intercession, la prière, c'est cette discipline au quotidien de demander à Dieu les choses et de croire qu'elles progressent et qu'elles avancent et qu'elles vont vers leur aboutissement. Romains 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà mes frères, j'espère vous avoir aidé et je vous suggère pour commencer cet entraînement, si j'ose dire, d'abord une prière pour que nous assimilions cette lecture et après je relirai le texte avec des temps de silence et nous prierons ensemble. Alors Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties qui sont dans ta parole. Ouvre davantage nos sens à la vérité, notre âme, notre spiritualité, notre regard. Et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Donc, nous allons relire le texte ensemble. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Seigneur, apprends-nous à ne pas négliger les choses de Dieu, à être bien là où il faut, dans la prière, lecture de la parole, à la messe, dans tout ce que nous propose l'Église pour nourrir notre foi, et non seulement d'y être physiquement, mais d'y être présent aussi avec tout notre cœur et notre âme. Alors nous ne serons pas des jumeaux, mais nous serons vraiment nous-mêmes, ce que tu nous as appelés à être. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » Pardonne-nous, Seigneur, nos manques de foi. Et aide-nous à voir au-delà du visible. Nourris notre foi, augmente en nous la foi, pour que nous soyons persuadés qu'au-delà des signes extérieurs, qui sont parfois inverses ou contradictoires à ce que nous espérons, nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, que la grâce travaille, que dans la croix la résurrection germe. Amen. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Seigneur, aide-nous à être comme Thomas, assez humble pour revenir auprès des disciples. Et comme les disciples, et comme Thomas ce soir-là, rien n'a changé, les portes sont toujours verrouillées. Et le Christ est pourtant là au milieu d'eux. Aide-nous à vraiment te persuader que le Christ travaille dans les cœurs, au milieu du cœur de ceux pour qui nous prions, dans notre cœur, à nous, et dans cette vie, malgré parfois l'absence de signes du monde invisible. Aide-nous vraiment à être persuadés que le vrai monde est dans l'invisible, que le ciel est notre vraie patrie, malgré le monde visible qui souvent crie à l'opposé de ce que nous dit ta parole. Oui, vraiment, aide-nous à avoir la foi malgré les circonstances extérieures. Oui. Et merci Jésus pour ta sollicitude. Tu acceptes la demande de Thomas. Et nous prions pour nous et pour tous ceux qui se nourrissent de rassemblement en rassemblement, qui n'ont pas une foi solide entre deux périodes de rassemblement, entre deux messes la semaine. Nous prions pour nous et pour eux afin que tu solidifies notre foi au quotidien. Oui Seigneur, viens Seigneur Jésus, nourris-nous de ton esprit. Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Seigneur, aide-nous vraiment à avoir cette même profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu, que malgré les signes extérieurs, il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu, c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. Mais aide-nous, Seigneur, qu'au-delà de notre confession, de notre profession de foi intellectuelle, nous ayons ce regard ancré dans l'invisible, cette conviction du cœur qui va au-delà de ce que l'on peut voir. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom. Oui, Seigneur, apprends-nous l'importance de ta parole. Aide-nous à la méditer, à la prier, donne-nous la volonté, et apprends-nous à la lire comme elle doit être lue, dans un esprit de foi, inspiré par l'Esprit, dans un regard spirituel. Apprends-nous à lire la parole et à le faire régulièrement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà mes frères, eh bien j'espère que cela vous a aidé, et courage, vous verrez que lire la parole de Dieu, prier régulièrement, va transformer votre vie. Voilà, Amen. Fin de l'enregistrement.